Chapitre 10. À cet appartement de la rue pas étroit est associé le souvenir de quelques-unes de nos plus cruelles infortunes. Après la déception que je viens de raconter, ce fut d'une longue maladie de mon père, puis le départ d'Annette, une brave fille à notre service depuis plusieurs années et qui nous adorait. Elle était dans le secret de nos détresses et travaillait avec un héroïque courage pour nous les rendre moins amères en économisant de ressources. Elle nous avait suivis à Lyon pour ne pas se séparer de nous et quoique le climat fût meurtrier pour sa santé, elle nous demeurait fidèle. Pendant sa maladie, mon père la prit en grippe. Il fallut la faire partir. Après sa guérison, il déplora son injustice et voulut rappeler Annette. Mais elle avait revu le ciel de son pays et ne revint pas. 2 ans auparavant, ne faisant rien qui vaille sur les bancs de l'école, tourmentée de je ne sais quel désir d'indépendance et d'émancipation, poussée par une forte volonté vers un travail lucratif, j'avais demandé à quitter le lycée pour apprendre le commerce et obtenu de mes parents qu'ils exauçassent ma demande. Mon père, ayant besoin d'un aide, me garda près de lui. Je fis mon apprentissage sous sa direction. Continuant la fabrication des foulards, il avait établi son magasin de vente dans la pièce la plus vaste de notre appartement. Je la vois encore, cette pièce sombre, où j'ai vécu si tristement pendant de longs mois. À droite et à gauche, de larges planches sur des tréteaux, comme bureau, une tablette en chêne scellée sous la croisée, accrochées au plafond, de gigantesques balances pour peser la soie, le long des murs, 4 chaises, des étagères en bois blanc où s'empilaient les pièces de foulard, dans un coin, un vieux coffre-fort en fer, tout bardé de grosses têtes de clous, reste des splendeurs passées. À cela se réduisait cette installation un peu primitive. Que d'heures j'ai passé là à plier la marchandise, à écrire des lettres, à dresser des factures, à faire des emballages. Nous peignions, mon père et moi, comme 2 manœuvres. À moins de descendre les colis sur notre dos, je ne vois pas ce que nous laissions à faire aux commissionnaires qui nous servaient d'aide. Nous ne songions ni l'un ni l'autre à nous plaindre cependant. Nous étions payés quand apparaissait un client. Les clients n'auraient pas manqué, car les produits de la maison avaient la réputation d'être beaux, soignés et pas chers. Ce qui manquait, c'était l'argent, la mise de fonds, la possibilité de pourvoir aux avances que nécessitait notre industrie. À tout instant, il fallait restreindre la fabrication quand il eût été nécessaire de l'étendre. D'autres fois, quand on avait fait effort pour remplir les rayons, la vente s'arrêtait tout à coup sous l'empire d'une crise accidentelle et l'on restait sans rien recevoir après avoir épuisé en avance toutes les ressources. Que de soucis cuisants dans cette marche chaotée entre la faillite et le protêt. Et les jours d'échéance, comment en raconter les angoisses? Ils arrivaient toujours trop tôt. Le petit carnet, sur lequel étaient inscrits les billets à payer, nous les rappelait sans cesse. On les voyait approcher, le cœur serré, comptant pour y faire face sur un acheteur qui ne venait pas. Ils nous prenaient souvent au dépourvu. Alors on jetait en hâte dans une caisse 100 ou 200 pièces de foulard, un commissionnaire chargeait le tout sur son dos et l'on s'en allait chez des marchands dont toute l'industrie consistait à exploiter la gêne des fabricants aux abois. La honte au front, la rage au cœur, on leur vendait à vil prix de quoi faire face à l'échéance du jour. On ne s'enrichit guère à pareil métier. Lorsque tant de ruineuses opérations eurent creusé le gouffre où nous allions sombrer, vinrent les protêts et leurs humiliantes suites. Un matin, je m'en souviens comme si c'était d'hier, vers 7 heures, entrèrent dans le magasin 3 hommes à mine obséquieuse. C'était un huissier et ses aides. À la suite d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce pour une traite impayée, ils venaient opérer une saisie. Ma mère, souffrante ce jour-là, dormait encore. Mon père se rasait devant la croisée du magasin, j'écrivais une lettre et mon frère mettait la dernière main à ses devoirs avant de partir pour le lycée. On devine, sans qu'il soit nécessaire de le décrire, l'effet produit par l'apparition des records dans notre intérieur, si paisible en sa monotonie. Ce jour-là, pour la première fois, j'eus une initiative virile. Tandis que mon pauvre père, tout pâle, la moitié de la face couverte de savon, parlementaise son rasoir à la main pour défendre son foyer menacé, je partis comme un trait pour aller chercher du secours. Parmi les négociants de Lyon avec qui nous entretenions des relations, il en était un qui nous avait connus dans des temps plus fortunés. Nos malheurs ne nous avaient pas aliéné sa sympathie. Son nom s'était présenté tout à coup à ma pensée. J'arrivai chez lui affolé. « Monsieur, lui dis-je, venez chez nous tout de suite !» J'étais si bouleversé, si pâle, qu'il ne m'interrogea pas. Il prit son chapeau et me suivit. En route, je lui racontai ce qui nous arrivait, je lui dis ce que nous attendions de lui. Il était l'ami de notre créancier, son intervention pouvait nous sauver. En arrivant à la maison, il renvoya les huissiers qui avaient, au grand désespoir de ma mère, commencé le recollement de notre mobilier, puis s'entretint avec mon père. Au bout d'une heure, nous recevions l'assurance que les poursuites ne seraient pas continuées, notre créancier consentant à nous accorder du temps pour nous libérer. L'honnête homme à qui j'avais fait appel nous rendit ce service avec une simplicité discrète qui en accrut le prix. Il nous garda le secret, même vis-à-vis des siens. Bien des années après, en janvier 1871, traversant Genève, au lendemain de l'armistice, au moment où l'armée de l'Est venait de se jeter en Suisse, je rencontrai dans les rues de cette ville un pauvre petit lignard, hâve, déguenillé, traînant avec peine ses pieds meurtris. Il me reconnut et m'appelant se nommant. C'était le fils de notre sauveur. Je l'emmenai à mon hôtel, je lui donnai les soins que nécessitait son état, et le cher garçon ne se douta guère qu'au bonheur de secourir un soldat français se joignait pour moi la satisfaction de payer une dette sacrée. Si, du moins, nos infortunes se fussent bornées à ces émouvantes épreuves. Mais elles allaient se compliquer, se prolonger encore, et le chapitre en est vraiment inépuisable. Après le départ de la bonne Annette, renvoyée dans le Midi, comme je l'ai raconté, on l'avait remplacée par une laborieuse et solide auvergnate. Mais si modique que fût la dépense qu'elle entraînait, il fallut y renoncer. Alors, on prit une femme de ménage pour la grosse besogne. Notre chère maman aventura ses blanches mains dans la cuisine et m'institua pourvoyeur. Chaque matin, après une rapide conférence avec elle, je m'en allais aux provisions, un panier sous le bras, un peu humilié de mon rôle, cherchant à me donner l'air d'un petit riche qui aurait joué au domestique. Il paraît que j'achetais très bien. Au moment de partir, j'allais au coffre-fort pour prendre de l'argent. Oh, ce coffre-fort, je le revois toujours. Il pouvait contenir en ses larges flancs une fortune, et par une âpre ironie du destin, il était toujours vide. La clé restait sur la serrure, on négligeait même d'en fermer la porte. Sur l'une des tablettes dont il était intérieurement revêtu, mon père déposait de temps en temps une pile d'écus. Je tirais de là, tout perplexe. Une sueur froide baignait mon front au fur et à mesure que s'abaissait le fragile édifice. Un jour, le dernier écu de la dernière pile ne fut pas remplacé. Il fallut recourir aux expédients, au mont-de-piété, où je portais successivement la vieille argenterie, les bijoux de ma mère, tout ce que nous avions arraché au précédent naufrage. De ma première visite chez un commissionnaire au mont-de-piété, je l'avais intéressé à nos malheurs en insistant fièrement, contre toute vérité, sur le caractère momentané de notre gêne. J'obtins ainsi d'être autorisé à entrer chez lui par une porte réservée, d'attendre dans une petite pièce, sans être mêlé à la foule des malheureux qui se pressaient à son guichet. Ah, jour de noire misère, quel sillon vous avez creusé dans notre souvenir! De quelle maturité précoce vous avez revêtu notre esprit! Oui, à vivre avec l'adversité, nous sommes de bonheur devenus des hommes. On le deviendrait à moins. Une âme d'enfant se trempe vite dans de si dures épreuves. Mais l'expérience achetée à ce prix par le sacrifice des illusions et des joies de la jeunesse est si douloureuse que je ne souhaite à personne de l'acquérir si chèrement. Les soucis et les larmes de ceux qu'on aime, la poursuite désespérée après l'argent, la détresse profonde et non avouée, la honte des sollicitations importunes, les courses matinales chez le curé de la paroisse, le premier et le seul à qui on ose tout dire, l'angoisse de l'attente succédant aux demandes, les réponses qui n'arrivent pas, l'incertitude du lendemain, l'horizon sans éclaircie. Lecteur, Dieu te garde de ces épreuves. De cet acharnement de la mauvaise fortune, il fallut conclure qu'il n'y avait pas place pour moi dans le commerce paternel, qu'il était prudent de me laisser libre de gagner ma vie d'un autre côté. Je fus donc autorisé à chercher un emploi. J'en trouvai un d'abord au Mont-de-Piété de Lyon. Il nous devait bien cela. J'y gagnai comme surnuméraire, à raison de 3 francs par jour, le pain que je mangeais chez mes parents. Assis entre 2 préposés aux expertises, derrière un guichet, je remplissais sur leurs indications des reconnaissances. Que de regards navrés, que de figures allongées, que de pauvres mains amaigries, tendant honteusement un mince paquet de pauvres hardes, j'ai vu, par l'ouverture carrée de la cloison qui nous séparait du public. Le soir du jour où, pour la première fois, j'avais assisté à ce lamentable spectacle, je dis à notre mère « Il en est de plus malheureux que nous ». Au bout de quelques mois, je quittai le Mont-de-Piété, malade, quasi empoisonné par l'air empesté que j'avais respiré, entre ces murailles imprégnées de toutes les odeurs malsaines qui se dégageaient des nantissements. Une position plus lucrative s'était offerte, une place de commis chez Descours, entrepreneur de roulage. On me mit pour mes débuts au service des lettres de voiture. J'en ai noirci des centaines de ces feuilles revêtues du timbre impérial, en tête desquelles on lisait, imprimé en taille douce, la vieille formule « À la garde de Dieu et sous la conduite de un tel voiturier ». La tâche était dure, elle me retenait souvent jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Mais, du moins, la rémunération était proportionnée à l'ouvrage, le milieu plus humain, plus sain, moins triste que celui du Mont-de-Piété. Monsieur Descours, un excellent homme, me témoignait des égards. Mes collègues me traitaient comme un être supérieur à ma condition, accidentellement jeté parmi eux, destiné à les quitter un jour pour monter plus haut.